L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard. Je vous retrouve. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Et si cette histoire vous a intéressé, si elle vous a passionné, et si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous propose tout de suite d'écouter le supplément de l'émission avec des questions qu'on a pu oublier ou que l'on n'a peut-être pas posées. Pour en savoir plus, eh bien, je vous propose de retrouver tout de suite la rédactrice en chef de l'heure du crime, Justine Vigneault, avec son invité.
Bonjour Daniel Zaguri.
Bonjour.
Vous êtes expert psychiatre, on ne vous présente plus, expert psychiatre auprès de la Cour d'appel de Paris, auteur de plusieurs ouvrages. Je cite celui-ci, La barbarie des hommes ordinaires, ces criminels qui pourraient être nous, aux éditions de l'Observatoire. On a parlé du cas de Ludivine Chambé dans l'heure du crime pendant une heure avec vous, et j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin ensemble dans ce supplément. Avec cette question, j'ai l'impression que le point de départ dans beaucoup de dossiers criminels, c'est l'enfance. Qu'elle soit malheureuse, avec des carences affectives, des violences, ou justement avec un trop-plein d'amour et une fusion, comme avec Ludivine Chambé, qui fusionnait avec sa mère, qui était ultra-protectrice. On en revient à l'enfance.
Bah, on en revient à l'enfance, c'est le début du parcours de chacun d'entre nous. Pour ce qui concerne les tueurs en série, par exemple, dans l'immense majorité des cas, vous avez des enfances marquées par la carence, les abus, les sévices, parfois même des tortures. Donc, des enfances très très marquées dans le registre du manque d'amour. Et là, avec Ludivine Chambé, on est dans un autre registre, qui est celui d'une enfance très marquée par une maladie génétique. Quand même, elle est née prématurément, elle va avoir une grande, très grande taille, une grosse langue, ce qu'on appelle la macroglossie. Elle va être opérée, je crois, à l'âge de 6 ans. Elle a des maux de tête, elle est née avec le tube digestif, avec le ventre ouvert, hein, pour parler simplement, et le tube digestif à l'extérieur. Donc, c'est une enfant qui a été, de ce fait, surprotégée par sa mère, qui était elle-même, je crois, assez fragile et subdépressive. Et donc, on n'est pas du tout dans un contexte de manque d'amour, on est dans un contexte de surprotection maternelle, qui l'a probablement empêché d'acquérir une autonomie suffisante. Et il était très frappant à l'examen de noter la tonalité puérile de certains de ses propos. Quand elle parlait pas de son père ou de sa mère, elle parlait de maman et de papa, par exemple. Hein. Et sa première dépression, elle l'a faite quand son oncle a divorcé. Et son oncle avait été élevé par sa mère, il était plus jeune que sa mère, et sa mère l'avait élevé à la mort de leur mère. Et donc c'est pas quelqu'un de froid, Ludivine Chambé, et c'est pas quelqu'un qui a présenté un manque d'amour. Je dirais peut-être, un petit, de façon un peu simpliste, qu'elle en a eu trop, mais de façon fusionnelle, désadaptée, l'empêchant d'acquérir une autonomie suffisante.
Mais du coup, c'est presque aussi néfaste qu'une enfance marquée par la violence, les abus, non ?
J'ai pas envie d'établir un parallèle. On va dire que c'est pas idéal, mais la symétrie me paraîtrait un peu choquante.
Le déclic, c'est la mort de sa mère. On en a un petit peu parlé. Mais quand sa mère meurt, c'est là qu'elle commence à passer, à l'acte et à tuer toutes ces personnes.
La mort de sa mère, pour n'importe lequel d'entre nous, la mort de la mère est un moment terrible. Mais là, c'est une maman avec laquelle elle a entretenu tout au long de sa jeune vie un parcours totalement fusionnel, donc avec une maman surprotectrice et dans une famille assez isolé, avec peu de contacts à l'extérieur. Et donc, la mort de cette mère, c'est quelque chose, probablement pour elle, d'inenvisageable. Comment vais-je pouvoir survivre à ma mère ? Et donc, elle va traverser toute une période où elle dit qu'elle était complètement en suractivité. D'ailleurs, au travail, on pense qu'elle est en burn-out. Et donc, elle va occuper son temps entre le travail, la maison, les allers-retours à l'hôpital, elle va chercher son père, elle va à l'hôpital pour voir sa mère, et donc elle était effectivement très, très fatiguée, très déboussolée, et c'est dans ce contexte de l'agonie de sa mère que se situe le début des faits.
L'agonie de sa mère, mais justement les victimes, en l'occurrence, n'étaient pas agonisantes. Elles n'étaient pas en fin de vie, pas en souffrance. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça ?
Alors, je crois que ce qu'on peut comprendre, c'est que dans un registre de rationalité, d'objectivité, ça ne tient pas du tout. Les personnes âgées n'étaient pas agonisantes. C'est elle qui a projeté sur elle la souffrance de sa mère, et c'est elle qui a probablement projeté sur elle, sur ses femmes et sur ses hommes, un mélange, quelque chose d'assez difficile à discerner entre l'envie de protéger, l'envie de détruire. Et peut-être l'envie de se venger sur le mode, il n'y a pas de raison qu'il survive alors que ma mère va mourir. Mais là, si vous voulez, on donne quasiment une coloration rationnelle à des explications qui, pour l'inconscient, pour la part d'elle qui s'est exprimée dans ses actes, était probablement très peu perceptible et trouble.
Est-ce que finalement il ne faut pas accepter qu'on ne peut pas tout comprendre dans le mécanisme criminel, de manière générale ?
Alors je dirais oui et non. Encore une fois, je l'ai dit à Jean-Alphonse Richard, ça m'agace beaucoup quand on dit les experts ne nous ont pas aidés à comprendre. Peut-être que on peut pas donner une explication simpliste, rudimentaire. Il a tué ou elle a tué pour telle ou telle raison qui serait simple. C'est ce que j'appelle la quête de la cause coupable. On est tout content, on croit tenir l'explication dernière d'un phénomène complexe. Donc ça, oui, c'est vrai, ça, on ne peut pas le formuler. Ou si on le formule, on va dire des bêtises. Par contre, il me semble qu'on a cerné, les différents experts d'ailleurs ont cerné la personnalité, ont dit à quel point ces actes entretenaient un lien avec la relation à la mère et avec l'agonie de la mère. À partir de là, les éclairages qu'on peut donner sont un tout petit peu plus complexe que quelque chose qui tient en une phrase ou deux, d'autant que la logique de l'inconscient, elle peut faire coexister des contraires. Si je vous dis « il a tué par amour et par haine », bon, vous allez me dire « il dit n'importe quoi ». Si je vous dis « il a tué par destructivité et par protection », vous allez me dire la même chose. Et pourtant, pour l'inconscient, les deux peuvent coexister. Voilà.
Comment vous faites lors d'une expertise si vous êtes face à quelqu'un qui ne vous parle pas, qui est mutique, qui n'accepte pas de s'exprimer sur son enfance, sur ses actes ? Comment vous faites pour établir un rapport psychiatrique ? Comment on fait ?
Alors, c'est pas le cas de Ludivine Chambet. Ludivine Chambet, elle parle. Mais il y a une zone à partir de laquelle elle s'arrête. Elle s'arrête, non pas parce qu'elle est réticente à dire ce qu'elle pense, mais parce qu'elle n'a pas accès à ce qu'elle pourrait dire. Et effectivement, une partie de notre travail est de remplir des trous et d'essayer de comprendre comment ces scotomes, l'existence même de ces scotomes est un signe.
Scotome, c'est ?
Un scotome, c'est une tache aveugle.
D'accord. Donc vous notez tout, les silences, les mimiques, les expressions, le langage verbal non-verbal, je veux dire, quand vous êtes en expertise, justement, face à quelqu'un, et je ne parle pas de Ludivine Chambet, de manière générale, qui ne veut pas s'exprimer. Alors pour décrypter ça, comment on fait ?
Pour ce qui me concerne, je note tout. Je note tout, quand je revois mes notes, parfois assez longtemps après, j'ai tout qui revient. Et je note également ce que j'éprouve. ce que la personne me fait éprouver. Ça, c'est très important. Il faut pas croire qu'on est des observateurs objectifs à distance. On éprouve. Et ça, si vous voulez, ce clavier-là, il est essentiel.
Parfois, vous pouvez éprouver quoi ? De la peur, du dégoût ?
Ah ben, je peux tout éprouver. Je disais à Jean-Alphonse Richard que je n'ai pas éprouvé ce qu'on éprouve habituellement en face des pervers. Par exemple, hein, je n'ai pas éprouvé de gêne, je n'ai pas éprouvé de dégoût, je n'ai pas éprouvé le sentiment qu'elle me menait en bateau, je n'ai pas éprouvé qu'elle jouissait de me mettre mal à l'aise, etc., etc. Le fait que je ne l'ai pas éprouvé est tout de même important pour ne pas nous orienter vers la piste perverse.
Il y a quelques années, vous avez publié un ouvrage de référence qui s'appelle « L'énigme des tueurs en série ». Est-ce que tous les tueurs en série sont des énigmes ?
Si je l'ai appelé « L'énigme des tueurs en série », c'est un peu pour la raison que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire le sentiment qu'on n'arrive pas à résumer en termes simples les mobiles profonds de tels actes qui nous paraissent absolument sidérants. Mais l'énigme, on peut la circonscrire. Encore une fois, l'énigme, c'est pas la tâche aveugle. L'énigme, c'est ce qui nous échappe et que petit à petit, en essayant de la résoudre par divers chemins, on parvient à circonscrire.
Qu'est-ce que vous avez compris et retenu de toutes vos expertises, des tueurs en série, Guy Georges, Michel Fourniret, Patrice Allègre, qu'est-ce qu'il en ressort ?
Alors, vous me demandez de résumer ma vie en deux phrases.
C'est compliqué.
On va essayer. Non. Alors, pour ce qui concerne les tueurs en série, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils sont extrêmement différents les uns des autres à tous les niveaux. On va pas détailler. Mais qu'il y a quelque chose de commun, notamment dans ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'enfance, et qu'il y a quelque chose de commun, surtout dans le fait qu'un premier acte inaugural va provoquer un certain nombre de bouleversements émotionnels qui font que le sujet va avoir tendance à les répéter encore. Au fond, ce qui fait, si vous voulez, le fond commun de tous ces cas très très diversifiés, c'est cette dynamique d'un acte qui en appelle un autre et encore un autre. Et il y a un troisième élément qui, moi, m'est apparu essentiel, c'est que n'est pas tueur en série qui veut, et que ça se situe toujours dans des zones qui comportent une part de psychopathie, une part de perversité, une part d'angoisse fondamentale, et un clivage. C'est justement ce qui fascine le grand public, avec quelqu'un qui a une vie apparemment adaptée, apparemment pseudo-normale, et en même temps qui commet des actes épouvantables. Et l'exemple le plus extraordinaire de ce clivage, on vient de l'avoir avec cette image du grêlé chez Nagui, qui au fond est interactif, est à l'aise, est comme nous, et quand nous sommes en face de lui, nous ne pouvons que nous dire comment est-il possible que cet homme-là ait pu commettre ces actes-là.
Ça nous fascine parce que ça nous rassure quelque part dans notre condition, non ?
Mais ça nous fascine parce que le propre même du clivage, c'est qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Essayez de vous mettre à la place d'une épouse, d'un enfant qui découvre que son mari, son père, est quelqu'un qui a commis des actes. Toutes les réactions médiatiques après un acte comme ça sont les mêmes. C'est-à-dire, c'était un gentil voisin, c'était un bon père de famille, il était sympa, et comment puis-je comprendre que celui que j'ai cru connaître ait pu faire ça ?
Merci beaucoup.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.